du vent, le magazine de l'environnement.
Quand les laboratoires américains Bell créent à la fin des années 50 le premier modem permettant de transmettre des données binaires sur une simple ligne téléphonique, ils ne se doutaient sans doute pas que 60 ans plus tard, 40% de la population mondiale serait connectée grâce à Internet et ce n'est pas fini. Alors au-delà de la prouesse technologique, c'est une véritable révolution économique et sociale qui peut sauver le monde. C'est en tout cas le titre de votre livre, Michel Bowens.
Oui. C'est un peu provocatif comme titre, je crois que je suis assez sérieux avec ce titre-là. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui il est basé sur deux faux principes, que la nature est infinie, donc on a une fausse abondance, et puis on a la propriété intellectuelle qui devient de plus en plus lourde et qui nous empêche de collaborer. Et donc dans le modèle peer-to-peer, on peut renverser ces deux principes, donc avoir une vraie abondance dans l'immatériel où toutes les innovations techniques et scientifiques sont partagées par toute l'humanité. Et comme on fait le design, la conception de la production, on le fait en communauté, donc il n'y a pas d'obsolescence planifiée. Et donc on répond déjà aussi structurellement au fait que dans le système dominant, on ne peut pas faire en fait une production vraiment durable.
Alors on va détailler tout ça, hein. Donc votre livre est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors il y a pour sous-titre « Vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer ». Alors vous êtes l'un des plus célèbres théoriciens de ces technologies, avec votre fondation aussi, on va en parler pour les alternatives peer-to-peer. Alors, on va faire un peu de pédagogie tout d'abord, parce que vous avez déjà défleuré le sujet, mais je pense que ce n'est pas inutile de rappeler ce que c'est que le peer-to-peer, le pair-à-pair en français.
En général, les jeunes connaissent ça, parce qu'il y a le monde des fichiers musicaux, etc. Mais en fait, c'est surtout une dynamique relationnelle. C'est le fait qu'aujourd'hui, avec ces infrastructures technologiques, chaque être humain peut se connecter avec chaque autre être humain sans permission. Et donc, non seulement communiquer, mais aussi s'organiser, voire créer de la valeur ensemble. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le citoyen devient productif, le monde civique devient productif. On n'a pas nécessairement besoin ni de l'État, ni de l'entreprise pour créer de la valeur. C'est très très important. Donc on appelle ça la production entre pairs. Et donc le principe, c'est que des contributeurs du monde entier puissent créer une ressource commune. Ça peut être la connaissance ouverte, comme le Wikipédia, du logiciel libre, comme Linux, mais aussi du design, c'est-à-dire des choses qu'on va faire, qu'on va effectivement produire dans le monde physique. Par exemple, les cartes mères Arduino, c'est déjà une grande industrie. Donc, c'est des cartes de mère qui sont en design partagé. Et donc, à ce moment-là, on va faire ce qu'on dit en anglais du open hardware, c'est-à-dire des objets qui ont leur design est ouvert, c'est-à-dire dans le monde entier, des petites entreprises, voire des collectifs citoyens, voire des coopératives, peuvent downloader le concept et alors le fabriquer localement.
Downloader, ça veut dire télécharger.
Voilà. Oui, je suis désolé, je vis plutôt dans un monde anglophone. Et donc, le principe général, c'est tout ce qui est léger est global, dans des communautés de contributeurs, et tout ce qui est lourd est local. Et donc on peut s'imaginer un mode de production où on va produire sur demande, près de chez soi. Alors quand on sait que 3/4 des coûts en matière énergie aujourd'hui, de l'économie globale, c'est le transport, c'est pas la production, on voit tout de suite pourquoi ça devient intéressant, surtout pour des continents comme l'Afrique ou l'Amérique latine, ou même l'Europe qui a été désindustrialisée par le néolibéralisme. Donc faire en fait une sorte de politique de réindustrialisation. Ça veut aussi dire que la plus-value reste chez nous. Donc si on peut produire près de chez nous, et je donne comme exemple Barcelone qui a un plan qui s'appelle Fab City, donc pour relocaliser 50% de la production industrielle et alimentaire en 2050, de retour dans la ville ou autour de la ville, on voit tout de suite que ça donne des possibilités énormes parce que cette plus-value qui aujourd'hui est partie surtout en Asie, mais qui est captée par le monde financier, peut être réinvestie dans la production locale et donc créer des richesses au niveau des régions, des villes, etc.
Et à ce moment-là, on imagine bien que cela minimise les impacts. Alors, par extension, vous y ajoutez une dynamique sociale, hein, puisque désormais, vous le disiez, des gens du monde entier peuvent s'organiser pour produire en commun de la connaissance et des biens.
Oui. Alors, il faut évidemment se mélanger, c'est-à-dire on ne peut pas faire uniquement que du virtuel. Et on voit que dans les grandes communautés, par exemple du logiciel libre, ils font des conférences, ils font des ateliers. Donc, il faut le monde physique. Par exemple, une communauté qui m'intéresse énormément et qui pourrait intéresser les gens qui nous écoutent en Afrique et ailleurs, c'est un projet français qui s'appelle l'Atelier Paysan. Ce sont les éco-agriculteurs français. Évidemment, l'agribusiness ne produit pas le genre de machines dont ils ont besoin. Et même s'ils le font, ça veut dire qu'ils doivent arriver à des échelles qui, en fait, détruisent l'économie familiale des petits paysans. Donc, ils sont en train de concevoir leurs propres machines. Et donc, il y a des dizaines, voire des centaines de machines agricoles aujourd'hui qui existent déjà, parfois sans énergie, donc avec l'énergie du corps humain, par exemple. Et puis, ils font des ateliers dans toutes les régions françaises. Donc, c'est pas uniquement virtuel, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a toujours un aspect de confiance humaine qui doit passer aussi par le physique. C'est les deux ensemble. Il faut pas croire qu'on peut faire ça uniquement en virtuel.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous parliez des machines agricoles. Récemment, on a parlé, par exemple, d'une éolienne urbaine, pareil, dont les schémas ont été mis à disposition sur Internet. Donc, en fait, à partir du moment où les gens travaillent ensemble, vous donnez dans votre livre des exemples d'inventions ou de personnes qui travaillent à plusieurs dizaines de milliers même, on arrive à produire une connaissance de grande qualité, mais qui appartient à tous.
C'est ça. Donc, et en fait, il y a trois institutions humaines qui jouent dans cette production entre pairs. La première, c'est la communauté des contributeurs. Alors là non plus, il ne faut pas croire que c'est uniquement des gens qui travaillent gratuitement. Au contraire, par exemple, chez Linux, c'est trois quarts sont payés, un quart sont pas payés. Alors pourquoi le quart qui ne gagne pas de l'argent, pourquoi? Admettons que vous utilisez Microsoft, vous avez un problème. Eh bien, vous ne pouvez pas le solutionner, parce que le code est secret. Mais quand vous travaillez avec Linux, logiciel libre, le code est visible. Donc, même si vous n'êtes pas payé, mais vous avez un problème à solutionner, vous allez le faire de votre propre gré, sans être payé, parce que ça vous est utile. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est la communauté. Alors, autour de cette communauté, il y a une économie. Une économie, ça peut être des entreprises pour le profit, mais ça peut aussi être l'économie solidaire ou les coopératives. Donc là, il faut bien vivre de ce qu'on fait. Donc, je suis un contributeur à un design ouvert, mais en même temps, je crée ma coopérative pour pouvoir en vivre. Et donc, ça crée une économie autour du commun. Alors, aux États-Unis, il y a une étude qui s'appelle The Fair Use Economy, je ne sais pas très bien comment le traduire, et ils ont calculé que c'est déjà un sixième du produit national brut et 17 millions de travailleurs. Donc, c'est pas rien. Donc, ça c'est une économie qui tourne autour d'un droit de propriété intellectuelle qui est libre, libre à partager.
Et la troisième dimension?
Alors, troisième dimension, c'est les fondations. Donc, on voit que ces communautés ont souvent des institutions démocratiques. La Linux Foundation, Wikimedia Foundation, Drupal Foundation, Bitcoin Foundation. Donc, des associations, souvent avec des élections, etc. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est créer les capacités. Donc, l'infrastructure de coopération. Par exemple, pensez au Wikipédia. Il y a des millions de personnes qui peuvent l'utiliser gratuitement, mais il faut des serveurs. Qui va payer ces serveurs? Donc la fondation va faire du fundraising,
va chercher
du financement participatif pour maintenir les serveurs. Par exemple, on va protéger les licences. Il y a des licences ouvertes qu'on emploie dans ces projets, donc des licences basées sur le partage. Il y a des firmes qui respectent pas. Donc la fondation, à ce moment-là, elle va aller au juge pour protéger ce commun partagé contre une prédation, par exemple.
Et alors, en quoi tout ce mode d'organisation peut répondre aux défis du 21e siècle, notamment dans le domaine de l'environnement?
Alors, il faut voir tous les aspects en même temps. Alors, le premier aspect, c'est quand on fait une conception d'une production dans une firme privée, c'est pour le marché, donc c'est pour la rareté. Il faut maintenir la rareté.
Parce que ce qui est rare
donc,
est cher.
Voilà. L'obsolescence planifiée, comme on dit en anglais, it's not a bug, it's a feature. C'est-à-dire, c'est pas un accident. On peut pas faire une vraie conception durable dans une entreprise privée. C'est impossible.
Ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est le fait de dire qu'à partir du moment où on conçoit un objet, on lui donne une durée de vie limitée pour que derrière,
donc,
on en rachète un autre.
Par exemple, l'iPhone, après 44 rechargements, il marche plus. Et ils ont fait en sorte qu'on peut pas se changer soi-même, donc on doit aller au magasin. Et là, on dit, ça vous coûte trois quarts d'un nouveau, donc vous achetez le nouveau. Et ça, c'est systématique aujourd'hui dans notre économie. Même les ordinateurs verts sont concipiés pour une obsolescence planifiée. Mais quand vous faites le design dans une communauté, donc il y a par exemple 26 voitures open source, dont la Wikispeed, qui est assez bien connue, qui fait un cinquième du coût énergétique des voitures industrielles. C'est énorme. Les industriels prétendent que c'est pas possible de doubler leur efficacité. Ils l'ont déjà fait x5. Donc, quand on fait une conception en communauté, c'est une conception pour l'utilité sociale. À ce moment-là, donc, quand il y a des entreprises qui vont fabriquer et vendre cet objet, ça va être un objet durable. Alors, deuxième aspect, relocalisation. Donc là, trois quarts du coût énergétique et en matière première va être éliminé. Si on crée là-dessus l'économie du partage, donc une voiture partagée remplace 10 ou 15 voitures individuelles.
Voilà, et ça c'est possible aussi parce qu'on met par exemple sur un site internet à disposition de ses voisins, moi j'ai une voiture, je vous la prête, voilà. Et on a fait pas mal de reportages dans cette émission.
On voit quelle voiture est libre, un en particulier, voilà. Et donc on n'est pas obligé d'être propriétaire d'une voiture qui va rester 95% du temps non employé dans un garage. Alors, cinquième élément, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire, si on peut faire une convergence entre cette économie ouverte et la pensée écologique au niveau de la production industrielle. Donc, l'économie circulaire, en anglais, on dit cradle to cradle design. Alors, je ne sais pas comment traduire ça.
Oui, l'économie circulaire, c'est ça.
Hein, donc en anglais, on dit open source circular economy. Donc, l'économie circulaire open source. Vous voyez, donc, c'est comme un escalier. Et chaque fois qu'on rajoute une étape, on obtient des effets pro-écologiques encore plus grands.
Alors l'économie circulaire, c'est le fait, par exemple, d'utiliser les déchets d'une industrie
comme matière
première pour sa propre
production. Voilà, le déchet d'un processus devient l'alimentation du prochain processus, et on fait ça d'une façon systématique. Il y a aujourd'hui, par exemple, des glass houses, donc des où on fait l'agriculture à l'intérieur.
Des serres.
Hein, des serres. Où bon, c'est solaire, donc l'énergie vient du soleil. On investit une fois dans les panels et puis c'est fini. Il y a de l'agriculture qui va alimenter les poissons et les poissons vont alimenter les plantes. Donc on crée des circuits fermés à très très haute productivité qui sont tout à fait écologiques et intéressants. Mais là, le problème est un problème éthique. Si moi je trouve une solution à ce genre de problème et je privatise ma connaissance, en fait, je l'enlève à l'humanité. Et c'est ça qui s'est passé, par exemple, avec la révolution énergétique dans les années 70. On avait des voitures électriques dans les années 70. On avait déjà de l'énergie solaire. Eh ben, les brevets ont été rachetés, ils ont été mis au tiroir. Donc, on a perdu 30 ans. Aujourd'hui, dans un contexte de crise climatique, de biodiversité, enfin, tous les problèmes que vous connaissez bien dans votre émission, c'est immoral de pas partager ce genre d'avancées. Donc il faut que tous les citoyens, tous les entrepreneurs, tous les fonctionnaires puissent utiliser et co-créer ces communs de la connaissance dans un domaine particulier, que ce soit la science, la technologie, l'agriculture ouverte, l'industrie ouverte, etc.
Alors jusqu'à quel point ces nouvelles technologies peuvent-elles renverser la donne ? On en parle juste après une petite pause musicale.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Vous écoutez écoutez C'est pas du vent sur RFI en compagnie aujourd'hui de Michel Bowens, théoricien des nouvelles technologies qui sont en train de redistribuer les cartes avec 40% de la population mondiale connectée. Et ce n'est qu'un début, mais jusqu'à quel point cette émergence du collaboratif peut bousculer l'organisation de nos sociétés et de nos modèles économiques. Je vous propose, Michel Bowens, d'écouter l'analyse du scientifique et prospectiviste Joël de René, qui considère que nous sommes entrés dans l'ère d'une société fluide.
Jusqu'à présent, nos moyens d'affronter la complexité étaient la méthode cartésienne. Il s'agissait de la découper en petits morceaux pour la rendre plus simple. Mais en fait, on créait une poussière d'éléments qu'on n'arrivait plus à recombiner entre eux. Donc après la méthode cartésienne, se sont arrivés des outils extraordinaires comme l'ordinateur qui permet de simuler la complexité, d'agir sur elle avec des moyens, de la maîtriser avec des méthodes. Donc aujourd'hui, la complexité n'est plus un mal comme la complication, mais au contraire, quelque chose que l'on peut affronter avec des méthodes nouvelles qui nous permettent de la manager, gérer la complexité. C'est l'art d'aujourd'hui de la politique, l'art aujourd'hui de la science moderne.
Alors quelles sont ces méthodes nouvelles qui sont des outils utiles aujourd'hui ?
Eh bien d'abord les réseaux. Les réseaux qui mettent les gens en commun les uns avec les autres, les rapprochent, donc ils peuvent échanger des idées. Sur Internet, les moteurs de recherche permettent d'avoir l'information à portée de la main. Avec la messagerie, avec les blogs, avec Twitter, on peut un instant très rapidement échanger cette information, donc la comparer avec les autres. Et je dis que nous sommes en train de passer de la société de l'information à la société de la recommandation. On se recommande des choses les uns les autres.
Like, dislike.
Voilà. D'ailleurs, la génération Internet, la NetGen, comme je l'appelle, nous montre que l'on peut en permanence se recommander des choses, ou au contraire, évaluer ensemble. On nous dit très souvent, mais est-ce que vous êtes sûr de cette information sur Internet ? On n'est jamais sûr, mais on peut comparer très très vite grâce au réseau. Donc la complexité, on peut la manager ensemble. C'est ce que j'appelle le pouvoir transversal et pas seulement le pouvoir pyramidal. Le fait de partager, la solidarité.
Alors donc cette société fluide dont vous faites la promotion finalement dans ce livre, l'idée, vous dites, c'est qu'on ne se fonde plus sur les rapports de force mais sur des rapports de flux.
Alors, c'est sûr que les rapports de force vont continuer. Ils sont le fondement même de notre société.
On le voit bien en ce moment. Hein.
Pas toujours. Les rapports de force militaires, rapports de force politiques, syndicats contre patronat, partis politiques contre autres partis politiques. Les rapports de force tissent notre vie sociétale et on ne va pas les changer du jour au lendemain. D'ailleurs, l'addiction au pouvoir, comme l'a dit Machiavel, est tellement puissante que c'est comme une addiction à une drogue. C'est presque ridicule, tellement ça néglige l'intérêt social et l'intérêt des autres. Donc, la société fluide, c'est une société qui utilise le pouvoir transversal plutôt que le seul pouvoir pyramidal, et les rapports de flux plutôt que les rapports de force. Je m'explique. Un rapport de flux, prenez par exemple un réservoir qui se remplit et se vide en même temps. Si vous connaissez le débit d'entrée et le débit de sortie, vous pouvez maintenir le niveau du réservoir à stationnaire. Vous entendez, j'ai pas dit constant, parce que les molécules d'eau se renouvellent constamment. Donc vous tracez un trait au stabilo sur ce réservoir transparent, et en jouant sur le flux d'entrée et le flux de sortie, vous pouvez modifier ce niveau. Donc, les rapports de flux sont fondés sur de l'information. Je sais ce que je donne, je sais ce que je reçois. Tandis que les rapports de force sont binaires. Tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre veut prendre le dessus, ça s'appelle l'escalade. Donc, dans l'escalade, on est constamment dans l'incertitude. Tandis que dans les rapports de flux, on est comme dans le surf, on est dans la continuité, on est dans le mouvement, on est dans l'adaptation.
Et alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui que cette fluidité est plus au niveau des citoyens et que les rapports de force sont plus au niveau des gens qui, aujourd'hui encore, gèrent nos cités ?
Alors, la politique est traditionnellement fondée sur les rapports de force. Les élections sont fondées sur les rapports de force aussi, bien entendu. Et donc, jusqu'à présent, le système politique qui gouverne les pays démocratiques, les pays totalitaires encore plus, il y a un rapport de force, c'est celui qui est tout à fait en haut et qui dirige tout le reste, auront beaucoup de mal et il faudra beaucoup de temps pour s'adapter au pouvoir transversal qui nécessite la confiance, la solidarité, la générosité et surtout le partage. Or, pour les politiques traditionnelles, partager, c'est perdre de son pouvoir. Et par conséquent, on n'est pas encore sorti de ce cycle infernal.
Mais en même temps, le pouvoir transversal fissure justement cette structure pyramidale. On l'a vu avec les révolutions arabes, avec le mouvement des indignés.
On ne peut pas mieux le dire. Vous l'avez prononcé le mot. Les indignés, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement d'une génération internationale. Ce n'est pas des générations et des cultures différentes. C'est une génération internationale qui, grâce aux réseaux sociaux notamment, se sont indignés de quoi ? Bon, ils ont repris le mot de SL, indignez-vous. Mais ils s'indignent sur quoi ? Ils critiquent la démocratie représentative. Ils n'ont plus confiance dans leurs représentants, qu'ils considèrent parfois comme corrompus ou parfois ne pensant qu'à la prochaine réélection et donc ne s'occupant pas d'eux. Donc c'est ça qu'ils ont critiqué. On n'a pas tout à fait compris. En revanche, cette indignation qui prônait une démocratie participative, laissez-nous penser à notre avenir et le construire, a été récupéré, malheureusement, par le pouvoir pyramidal, les rapports de force, la preuve, c'est l'armée, dans certains pays, qui a repris le dessus et qui contrôle les réseaux et qui contrôle Internet.
Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont été à la base de ces révolutions.
Plus que les réseaux sociaux, c'est-à-dire au sens très large, c'est la possibilité des gens à communiquer, à échanger au-delà de toute censure et de toute capacité de contrôle. C'est ça qui a créé cette espèce d'énorme pouvoir. On traduit ça aux États-Unis par un mot très fort qui s'appelle le crowd quelque chose, crowdsourcing, trouver des solutions à des problèmes en commun alors qu'un expert tout seul n'y arrive pas. Le crowd financing, qui est le financement collaboratif, où des gens sont d'accord pour donner de l'argent pour des projets pour lesquels ils vont pas recevoir obligatoirement des dividendes ou des intérêts, mais ils vont pouvoir le faire parce que c'est dans l'esprit Internet. Donc ça, ça a complètement changé.
Ça a complètement changé. Michel Bowens, comment vous réagissez à ces propos de Joël de René?
D'une façon assez positive, parce que ce qu'il décrit, c'est vraiment, c'est ma vie en fait, c'est la vie de mon réseau. Donc la fondation Peer-to-Peer, c'est pas une organisation classique, avec un chef et des sous-chefs, c'est un réseau organisé, donc c'est un peu entre les deux, il y a des organisations, il y a des réseaux, un réseau qui soit totalement fluide, et puis il y a des réseaux organisés, donc où il y a quand même, on va dire, des nœuds un peu plus importants que les autres. Et par exemple, chez nous, on travaille ensemble à un wiki qui documente et qui observe l'émergence de la production entre pairs.
Alors ce qu'on appelle un wiki,
c'est un... Mais si vous connaissez Wikipédia, qui est donc une encyclopédie universelle, qui est disponible à tous et dont chacun peut contribuer. Donc le logiciel qui est derrière le Wikipédia, c'est un wiki. Donc ça permet justement que chacun puisse
apporter sa part
apporter
à la connaissance.
Sa brique à cette maison commune. Et donc nous, on emploie cette même technologie pour faire un wiki particulier, qui est un wiki sur la production, la gouvernance et la propriété entre pairs. Donc on observe en permanence les modèles. Et moi, je voyage pas mal. Bon, parfois, évidemment, on va me critiquer parce que c'est vrai qu'au niveau de mon crédit carbone, il est haut. Mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même quelques personnes dans le monde qui font le lien physique. C'est très important, l'humain. Donc, il faut rencontrer les gens. Alors, je vais donner un exemple. Donc, j'étais aux États-Unis, à Madison, dans l'État du Wisconsin. Il y a donc un Main Street, comme on dit en anglais, une rue principale. Et tous les troisièmes magasins avaient un poster particulier. Fair trade, donc commerce équitable, zero mile, donc production locale, sweatshop free, donc travail non exploité, etc., etc. Ça veut dire que derrière chaque vitrine, il y a un réseau. Si on a du café équitable, ça veut dire que, soit en Équateur ou ailleurs, il y a des fournisseurs, il y a une chaîne logistique derrière. Donc, il y a plusieurs personnes à Madison qui travaillent maintenant sur le Mutual Aid Network, donc les réseaux d'entraide mutuelle. Donc, par exemple, il y a une banque de temps. Des gens ils travaillent pour une heure de travail, ils reçoivent une monnaie complémentaire. Il y a une association de crédit pour s'acheter une maison sociale. Il y a des coopératives alimentaires. Donc, c'était des émergences fragmentées. Eh bien, déjà, on en fait écosystème. Ici même, à Lille, près de Paris, quand même, pas trop loin.
Dans le nord de la France.
Il y a encommun.org et Unisson de coworking, donc c'est-à-dire on appelle ça en français tiers lieux open source. Donc des lieux qui sont pas privés ni publics, mais où les gens se rencontrent pour faire des choses ensemble. Donc par exemple, la coroutine et Mutualab. Et ces gens-là sont en train de cartographier toutes les entités qui travaillent pour le bien commun. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur commun physique? Ils appellent ça le présentiel. Et quel est le commun immatériel, donc les connaissances partagées. Et alors, ils regardent les flux. Alors, troisième exemple, à Barcelone, j'ai rencontré la coopérative intégrale de Barcelone, qui est, en 3 ans, a atteint 5000 membres, donc ça marche assez bien. Donc, ils sont en train de faire une coalition qui s'appelle Fair Coop, donc une coalition globale de coopératives. Alors, qu'est-ce qui est le lien entre les trois? Tous les trois essaient de faire écosystème. Donc, de mettre ensemble des émergences fragmentées pour en faire un système. Le fait que moi j'ai été visiter les trois me permet de les mettre ensemble. De dire aux personnes de Madison, tiens, est-ce que vous connaissez les gens à Lille? Ça, on peut pas faire uniquement dans le virtuel. Il faut aussi, il faut être là, il faut avoir la main à la pâte, comment on dit en français.
Oui, il faut mettre la main à la pâte. Voilà. Exactement. Alors après, là, on va arriver à la fin de cette émission et donc j'ai envie de vous poser comme question, À partir de quand, finalement, on va arriver à un point de basculement? Parce que tout ce que vous nous avez expliqué est en effet très prometteur. En même temps, on sait que tout le monde n'a pas un accès égal aujourd'hui à ces nouvelles technologies. Et que, comme le disait Joël de Renais, par exemple, il y a eu des mouvements citoyens qui ont été récupérés. Alors, donc...
c'est difficile à prédire parce que, rappelez-vous, en mai 68, Hubert Beuve-Méry avait écrit le jour avant « La France s'ennuie ». Et Lénine, un mois avant la révolution russe, avait dit « Malheureusement, je ne pourrais pas vivre la révolution dans ma vie ». Donc ça veut dire que même les gens qui étaient au plus près de ces processus ne savaient pas prédire quand le feu allait prendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler, il faut se hâter lentement. Il y a des urgences climatiques, et écologiques et économiques dans le monde. Il faut se mettre au travail, mais il faut construire du solide en même temps. Et alors quand la crise survient, et on ne sait pas quand elle va survenir, on doit être prêt. On doit être prêt avec des germes d'alternatives. Alors, on peut quand même spéculer, hein. Donc, il y a quand même pas mal de rapports au niveau de l'écologie et tout, qui mettent une succession de crises à partir des années 30.
2030.
Donc là, c'est quand les différents cycles négatifs écologiques vont se mettre ensemble et vont se renforcer les uns les autres. Si on n'est pas prêt avant, on va vraiment avoir des grands, grands problèmes et voire même des catastrophes humanitaires à grande échelle. Faut pas quand même oublier que l'Égypte, la Syrie, c'est quand même aussi à la base de crises alimentaires, hein, que c'est venu ces dérèglements sociétals.
Oui, c'est vrai aussi pour le Darfour. Merci Michel Bowens. Je rappelle le titre de votre livre, publié avec la collaboration de Jean Liven, « Sauver le monde », et c'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Pour réagir à cette émission ou poser des questions, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr ou retrouvez-nous justement sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, même si sur Facebook et Twitter, il y avait beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas eu le temps, on n'a qu'à lire votre livre. Voilà. Demain, nous recevrons le biologiste Gilles Boeuf et nous parlerons de biomimétisme ou comment s'inspirer du fonctionnement de la nature pour là aussi nous aider à résoudre les défis du 21e siècle. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.